Bonjour, ici Marc, bienvenue au 21e épisode du Bonheur pour tous, le podcast pour réapprendre le bonheur. Aujourd'hui, je vous ai préparé le 21e chapitre du livre audio « La communication non violente » de Marshall Rosenberg. J'ai déjà présenté ce livre plusieurs fois dans les épisodes précédents, donc je ne recommence pas. J'espère juste que ce nouveau chapitre va vous plaire. Chapitre 21. Au lieu de se juger, apprendre à se pardonner. J'ai expliqué comment la communication non violente peut améliorer nos relations amicales, familiales, professionnelles, même comment elle peut être utilisée dans l'arène politique. Cependant, son utilité primordiale pourrait bien être lorsqu'on l'applique pour améliorer la façon dont on se traite soi-même. Lorsqu'on est violent avec nous-mêmes à l'intérieur de notre propre personne, il est bien difficile d'éprouver une véritable compassion pour les autres. J'aime la façon dont Mahatma Gandhi a dit ceci. Devenons le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Lorsqu'on nous a enseigné à nous juger en permanence, ceci nous empêche de voir la beauté qui se trouve en nous, nous perdons le contact avec l'énergie divine qui est notre source. Conditionnés à nous voir nous-mêmes comme des objets pleins de défauts, est-il étonnant que pour beaucoup d'entre nous, nous en venions à nous comporter de manière violente avec nous-mêmes? Un domaine important où cette violence peut être transformée en compassion est celui de notre évaluation de nous-mêmes au quotidien. Puisque notre intention est que tout ce qu'on fait participe à enrichir la vie, la nôtre et celle des autres, il est essentiel de savoir comment évaluer tout événement et toute circonstance d'une manière à pouvoir en tirer des leçons et de faire des choix qui nous sont bénéfiques sans jamais perdre de respect pour nous-mêmes. Malheureusement, la façon dont nous avons été entraînés à nous évaluer nous-mêmes nous porte souvent à nous détester plutôt qu'à apprendre. Au cours de mes ateliers, je demande couramment aux participants de se remémorer une occasion récente au cours de laquelle ils ont fait quelque chose qu'ils auraient préféré ne pas faire. Nous examinons ensuite la façon dont ils se sont parlé à eux-mêmes immédiatement après avoir commis ce qu'on appelle en langage courant une bêtise ou une bourde. Voici ce que les gens me disent se dire habituellement à eux-mêmes lorsqu'ils sont moins que parfaits. « Ah ça c'est malin !» ou bien « Mais comment est-ce que tu as pu être aussi stupide ?» Ou encore « Mais ça va pas, non ?»« Ah, il faut toujours que tu merdes !» Ou « Quel égoïste !» On a enseigné à ces gens de se juger de différentes manières qui impliquent toutes que ce qu'ils ont fait est mal, indigne de respect. Leur auto-évaluation implique que parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils méritent de souffrir. Je trouve ça tragique que tant d'entre nous se retrouvent pris au piège de la haine de soi, au lieu de tirer bénéfice d'erreurs qui nous montrent nos limitations et nous guident vers plus d'épanouissement. Comme je dis dans nos ateliers, s'il vous plaît, n'essayez pas d'être parfait en communication non violente. Essayez de devenir progressivement moins mauvais. Si on veut être parfait à quelque chose et qu'on fait une erreur, ça devient une catastrophe. Alors qu'est-ce que font les gens quand ils sont perfectionnistes ? Ils arrêtent d'essayer parce qu'ils risquent d'échouer. Ils vivent avec la philosophie du « on ne peut pas tomber du lit si on dort par terre ». Ou bien comme l'exprimait la tante de quelqu'un dans un de mes ateliers qui disait « ma tante dit ça comme ça, Marshall. Tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être mal fait ». Je voudrais donc qu'on arrive à apprendre à tirer bénéfice de nos limitations de cette façon, pas en tant que quelque chose qui cloche chez nous, mais avec l'attitude de penser « Ok, voici une opportunité d'apprendre. Comment est-ce que je peux utiliser ça pour apprendre? Comment est-ce que je peux m'en servir pour évoluer ?» Même quand on tire la leçon des erreurs qu'on fait pour lesquelles on se juge avec dureté, je m'inquiète à propos de la nature de l'énergie derrière ce genre de changement et d'apprentissage. Je voudrais que le changement soit stimulé par un désir clair d'enrichir notre vie et celle des autres, plutôt que par une énergie destructrice comme celle de la honte ou de la culpabilité. Si la façon dont nous nous évaluons nous conduit à ressentir de la honte, et qu'ensuite nous changeons notre comportement, alors nous laissons la haine de nous-mêmes guider notre développement et ce que nous apprenons. La honte est une forme de haine de soi, et les actions entreprises en réaction à de la honte ne sont pas des actions libres et joyeuses. Même si notre intention est de nous comporter avec plus de gentillesse et de sensibilité, si les gens sentent de la honte ou de la culpabilité derrière nos actions, ils sont moins susceptibles de les apprécier que si nous sommes motivés purement par le désir humain de contribuer à la vie. Dans notre langage, il y a un mot avec un énorme pouvoir de créer de la honte et de la culpabilité. Ce mot violent, que nous utilisons couramment pour nous évaluer nous-mêmes, est tellement ancré dans notre conscience que beaucoup d'entre nous ont du mal à imaginer comment vivre en s'en passant. C'est le verbe « devoir », comme dans « j'aurais dû m'en douter » ou bien « je n'aurais pas dû faire ça » ou encore « je devrais faire ça ». La plupart du temps, quand on utilise ce mot avec nous-mêmes, on est réticent à apprendre parce que « devoir » implique qu'on n'a pas le choix. Les êtres humains, lorsqu'ils entendent n'importe quelle sorte d'exigence, ont tendance à résister, parce que notre autonomie est menacée, notre grand besoin de garder la possibilité de choisir. Nous réagissons de cette façon à la tyrannie, même quand c'est de la tyrannie interne, sous la forme d'un « je dois » que nous nous disons à nous-mêmes. Une autre version de cette exigence interne est présente dans l'auto-évaluation suivante. « Ça ne va pas du tout ce que je fais, c'est terrible, il faut vraiment que je change ça. » Souvenez-vous de tous les gens que vous avez entendu dire « je devrais vraiment arrêter de fumer » ou bien « il faut vraiment que je trouve le moyen de faire plus d'exercice physique ». Ils ne cessent de répéter ce qu'ils doivent faire, ce qu'il faut qu'ils fassent, et ils continuent à résister de le faire, parce que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas destinés à être des esclaves. Ce n'est pas dans notre nature de succomber aux ordres des « il faut » et « je dois », qu'ils viennent de nous-mêmes ou de quelqu'un d'autre. Et si nous cédons et que nous nous soumettons à ces exigences, nos actions sont mues par une énergie vide de toute joie d'apporter la vie. Lorsqu'on communique régulièrement avec soi-même avec des jugements, des blâmes et des exigences, il n'est pas étonnant que notre concept de nous-mêmes finisse par donner plus la sensation d'une chaise que la sensation d'un être vivant. Un principe de base de la communication non violente est qu'à chaque fois qu'on sous-entend que quelqu'un est défectueux ou alors mauvais, ce que l'on est vraiment en train de dire, c'est que cette personne n'est pas en train d'agir en harmonie avec nos besoins. Si la personne que nous jugeons se trouve être nous-mêmes, ce que nous disons c'est « je ne suis pas moi-même en train de me comporter en harmonie avec mes propres besoins ». Je suis convaincu que si nous apprenons à nous évaluer en termes de si oui ou non nos besoins sont en train d'être satisfaits, nous sommes bien plus à même d'apprendre et de tirer parti de cette évaluation sans perdre d'estime de soi. Notre défi donc, lorsque nous faisons quelque chose qui n'enrichit pas la vie, est de parvenir à nous auto-évaluer d'une façon qui nous inspire à changer aussi bien, premièrement, dans la direction où nous voulons nous diriger, et deuxièmement, par respect et compassion pour nous-mêmes, plutôt que par haine de nous-mêmes, honte ou culpabilité. Après tant d'années d'école et de socialisation, pour la plupart d'entre nous, il est probablement trop tard pour entraîner notre esprit à penser en permanence uniquement en termes de nos besoins et de nos valeurs. Cependant, de la même façon que nous avons appris à traduire les jugements lorsque nous conversons avec d'autres personnes, nous pouvons nous entraîner à reconnaître les jugements de notre conversation intérieure et à immédiatement porter notre attention sur les besoins qui se trouvent derrière ces jugements. Par exemple, si nous nous apercevons que nous sommes en train de réagir à une de nos actions par des reproches, et qu'on se dit quelque chose comme « tu vois, t'as encore tout raté !» Nous pouvons arrêter et nous demander « attends, c'est lequel de mes besoins qui est pas satisfait et qui est exprimé par ce que je dis ?» Lorsqu'on entre enfin en contact avec ce besoin, et il peut y avoir plusieurs couches de besoins successifs à creuser, on sentira un ajustement remarquable dans notre corps. Au lieu de la honte, de la culpabilité ou de la dépression qu'on ressent probablement lorsqu'on se critique pour avoir encore tout raté, nous allons vivre un ou plusieurs autres ressentis, qui seront d'un autre genre, des ressentis que certaines personnes appellent une douleur douce. Que ce soit de la tristesse, frustration, déception, peur, de la peine ou tout autre ressenti dont la nature nous a pourvus pour nous aider à mieux satisfaire nos besoins, nous aurons une énergie différente de celle que nous avons quand nos ressentis viennent du fait que nous nous jugeons et blâmons nous-mêmes, c'est-à-dire quand nous nous sentons honteux, coupables ou déprimés. En communication non violente, j'appelle « travail de deuil » le processus qui consiste à entrer en contact complet avec nos besoins non satisfaits et les ressentis qui sont générés quand nous avons été moins que parfaits. C'est l'expérience d'un regret, mais un regret qui nous aide à apprendre de ce que nous avons fait, sans nous reprocher quoi que ce soit et sans nous détester nous-mêmes. Nous voyons comment notre comportement est allé à l'encontre de nos propres besoins et valeurs, et nous nous ouvrons aux ressentis qui naissent de cette prise de conscience. Lorsque notre conscience est focalisée sur ce dont nous avons besoin, cela stimule notre créativité naturelle et nous incite à trouver des possibilités de satisfaire nos besoins. Inversement, les jugements moralisateurs que nous nous assénons lorsque nous nous blâmons ont tendance à obscurcir ces possibilités et à nous maintenir dans un état d'autopunition. Nous poursuivons le processus de deuil en nous pardonnant nous-mêmes. Nous portons notre attention sur la partie de nous-mêmes qui a choisi d'agir de la façon que nous appelons une erreur, et nous nous posons la question « Lorsque je me suis comporté de cette façon que je regrette maintenant, lequel de mes besoins est-ce que je cherchais à satisfaire en faisant ça ?» Je pense que les êtres humains agissent toujours motivés par des besoins et des valeurs. Ceci est vrai, que l'action parvienne à satisfaire le besoin ou pas, et que ce soit une action que l'on finisse par fêter ou par regretter. Lorsqu'on s'écoute soi-même avec empathie, on parviendra à entendre le besoin qui est présent. Le pardon de soi arrive au moment où cette connexion empathique est établie. On peut alors reconnaître que notre choix était une tentative de servir la vie, pendant même que le processus de deuil nous enseigne comment cette tentative n'a pas réussi à satisfaire tous nos besoins. Un aspect important de cette compassion envers nous-mêmes est d'arriver à nous ouvrir en même temps aux deux parties de nous-mêmes, le moi qui regrette une action que j'ai faite, et le moi qui a fait cette action avec l'intention de satisfaire mes besoins. Le processus de deuil et de pardon de soi nous libère pour que nous puissions apprendre et nous épanouir. En établissant le contact avec nos besoins à chaque instant, nous développons notre capacité créative d'agir en harmonie avec nos besoins et donc avec nous-mêmes. On arrive à la fin de cet épisode du bonheurpourtous.info. Si vous voulez aider à faire connaître le podcast, ce qui aussi me fera plaisir, laissez un commentaire sur iTunes s'il vous plaît. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. Dans le prochain épisode, on continuera avec le 22e chapitre de la communication non violente. À bientôt !